Amis Burgiens, bonjour à vous.
Et voici pour eux, pour nous.
Pour vous, Electric Boogaloo, votre chronique à cœur et à plume sur la fine fleur graphique de la bande dessinée.
Anne Tissier.
Et Maxime Mott, vous êtes bien sûr Radio B.
Pour vous servir.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Je suis Lycaon, fils d'humain d'Arès, dieu de la guerre et de la destruction. J'ai beaucoup entendu parler de toi ces derniers temps, un peu trop en fait. Le futur Olympien, le fils du plus grand dieu, le plus puissant de tous les demi-dieux. Tout cela m'a donné une sacrée envie de te mettre une raclée, histoire de calmer les foules.
Je suis Héraclès. J'ai déjà oublié qui t'es, mais si tu veux mourir maintenant, tu t'y prends très bien. Alors dégage d'ici vite fait, ou descends faire la bise à mes poings. Amis Burgiens, bonjour à vous.
Désolé pour cette intro kermesse, mais aujourd'hui, c'est Héraclès.
Aujourd'hui, disais-je donc, suite et fin de nos émissions sur les mythes et légendes fondateurs de nos imaginaires. C'est pourquoi nous revenons aux fondamentaux, avec la mythologie grecque, modernisée ici sous le coup de crayon d'Edouard Cour, dans l'album qui nous intéresse aujourd'hui. Ici, nous parlerons en particulier de la magnifique intégrale en crayonné de la série Héraclès, parue aux éditions Aquileos, en 2016. Au tirage limité à 1000 exemplaires, si vous le voulez bien.
Et en plus, la nôtre est dédicacée.
La classe.
Yes! Yes!
Oui. Waouh.
Un format mine de rien choisi non sans risque et panache à la hauteur d'une narration ironique, faussement prolétaire, un brin déglingot mais pourtant jamais parodique.
Au contraire, les dialogues pleins de malice et d'humour noir épousent parfaitement la mélancolie du destin tragique de notre demi-dieu en chair, en os,
en phalange et autres dommages collatéraux.
Héraclès ou Hercule pour les nuls, je ne peux pas m'en empêcher, oui. Yep. Fils d'une mortelle et de Zeus, l'époux de la caractérielle et colérique déesse Héra, qui voyait d'un fort mauvais œil ses velléités extra-conjugales. Furieuse, elle condamnera Héraclès à une vie d'errance guerrière et d'épreuves titanesques, et oui, vraiment titanesques, piétinant sans pitié tout espoir de vie paisible. L'intégrale est donc logiquement composée en trois volumes pour suivre la structure du récit des aventures d'Héraclès, qui est elle aussi en trois parties, comme chez un certain pseudo Apollore et Diodore de Sicile, les principales sources historiques du récit de ses aventures. L'ouvrage commence au moment où Héraclès doit payer une dette à Eurysthée pour avoir tué dans un accès de colère sa femme Mégara et ses enfants. Alors commencent ses travaux légendaires et quelques aventures secondaires, comme voyons un peu la liste.
Alors, délivrer Thésée des enfers, combattre quelques centaures, ressusciter quelques morts, délivrer Prométhée, remplacer Atlas en portant le ciel quelques années, etc., etc., etc. Quelques expéditions supplémentaires contre Troie, par exemple. Histoire de maroufler des margoulettes modèle géant.
Et oui, la vie mène à tout, à condition d'en sortir évidemment, comme le disait notre ami Jules Renard. Donc Héraclès meurt hélas empoisonné par la tunique du centaure Nessos, imprégné du sang contaminé, de l'hydre, de Lerne. Et oui, un enchaînement de circonstances malheureuses comme seule la mythologie grecque sait en produire est à l'origine de sa mort. Sa mort, oui, mais en apothéose. En proie effectivement à une souffrance extrême, Héraclès demande à son fils Ilos d'ériger un bûcher afin par le feu de le purifier de ses maux, ad patres. Zeus le fait alors monter sur l'Olympe en triomphe parmi les dieux.
En tant qu'œuvre graphique, Héraclès reste un album avec un parti pris prononcé. Un style très comic book dans ses dialogues, type tonton flagueur franchement classe, et sa mise en page classique mais rythmée. On aime les cases horizontales sur toute la largeur de la page, ou au contraire, verticales tout en hauteur. Le crayonné d'Edouard Cour est une délectation visuelle propre à distinguer ou rapprocher les matières. Là, on verra un feuillage, là une chevelure, un rocher, le pelage d'un animal. Tous les personnages sont pour vous d'ailleurs de regards extraordinairement expressifs. Héraclès est une puissance brute, sorte de Lino Ventura hirsute vêtu d'une peau de lion. Sa force explicitement spectaculaire, héroïque, épique et collatérale encore, parce que mine de rien, c'est pas Jules Clodo.
Oui, voilà, exactement. On pourrait dire même un Goku ou voire...
De Superman.
De Superman, oui, carrément, je suis d'accord.
Il reste néanmoins cependant plein de poésie, car la mythologie nous épargne une dichotomie manichéenne entre le bien et le mal, incidence somme toute assez judéo-chrétienne et tristement peu créative.
Oui, voilà, ici effectivement on est un peu dans le dépassement de ces frontières, puisque l'intégrale reprend une annexe riche avec une galerie de personnages qui sont donc montrés tout en silhouette pour, je dirais, resituer effectivement toutes les péripéties de ce récit qui est quand même assez complexe et très dense. De même, une série de pleines pages, œuvres de différents dessinateurs, offrent des variante visuelle d'Héraclès. Un hommage, mais aussi une culture fan-service, des concepts art, qui sont typiques des comics américains. Donc on peut le dire, plus on est de fou, moins Errari.
Mais on ne s'en plaindra pas. A contrario, l'étonnante reliure de l'intégrale est un hommage aux livres de la fin du 19e siècle et les premières couvertures des éditions de luxe entoilées, comme celle des classiques à la littérature illustrée par Gustave Doré. Édouard Court prend le meilleur du roman graphique et de la culture comics, et ça marche.
Et oui, ça marche. Et ça marche pourquoi ? Parce que c'est à la fois prodigieux, exigeant et dense.
Bref, on se fout pas de votre gueule. Une nouvelle édition des héros de la mythologie qui honore la culture classique et la rend accessible et vivante. Les demi-dieux sont des héros magiques, marionnettes. Ils symbolisent les passions divines pour les simples humains, leurs aventures épiques suscitant la gloire et l'effroi.
Et nous nous quittons en musique avec Rules of Nature de Metal Gear Rising.
Lorsqu'on évoque les super-héros, un personnage de premier plan universellement reconnu a tendance à être laissé pour compte. Mais considérez ceci. Il défie les lois de la physique en voyageant autour du monde à des vitesses impossibles. Il dispose de sa propre voiture volante, de ses propres assistants, de sa propre base secrète en Arctique et d'une mission bien définie. C'est un immortel qui aime tant l'humanité, surtout les enfants, qu'il distribue lui-même des cadeaux personnalisés à des millions de personnes chaque année. Il porte même un uniforme blanc et rouge bien distinctif. Tout le monde connaît son nom. Vous connaissez son nom. Il est même peut-être possible qu'il soit plus populaire que Batman et Spider-Man réunis. Et pourtant, il n'a ni série de comics, ni franchise cinématographique. Qui est ce modèle de puissance et de générosité infinie qui reste cependant négligé? Je parle de Santa Claus, le Père Noël, bien sûr. Ainsi parle Grant Morrison, scénariste de l'album Klaus sur l'histoire secrète du Père Noël qui nous intéresse ici.
Et oui, Klaus de Grant Morrison et Dan Mora aux éditions Glénat Comics, paru en 2018. Grant Morrison est l'un des scénaristes de comics les plus primés, mais on lui doit notamment le très remarqué Batman Arkham Asylum, qui a 30 ans déjà,
mine de rien.
Mais il est aussi l'éditeur et rédacteur en chef de Heavy Metal, la mythique revue Metal Hurlant dans sa version américaine. Dan Mora Chavez, quant à lui, est né au Costa Rica en 1987 et s'est fait connaître avec la série Hexed. J'espère que je prononce convenablement.
Hexed.
Oui, en 2014 chez Boom Comics. Cet album lui a valu une nomination aux Eisner Awards. Les Eisner Awards, il faut le savoir et le retenir car c'est une chose importante, est une récompense prestigieuse, si ce n'est la plus prestigieuse. Oui,
effectivement.
Oui, puisque elle prime les meilleures contributions au 9e art. Leur talent conjugué nous offre ici une approche original et Heroic Fantasy de la vie du Père Noël. Bien dépoussiéré et, il faut le dire, sexy.
Plutôt badass.
Oui.
Effectivement. Ces histoires ici se lèvent aux aurores boréales sur le décor gelé de ces contrées nordiques. Un tyran, un château, de la neige et des loups, certes comme on en voit beaucoup, mais un Père Noël chasseur de démons, protecteur impavide des enfances malmenées comme on n'en connaît pas. Alors on sort les capes, on affûte les haches, Santa Claus a du pain sur la planche. Notre archétype de personnage ici, le drifter, l'âme errante d'humeur vagabonde, ici sous le trait d'un trappeur, faisant escale dans la morne cité médiévale de Grimsvig. Une intro somme toute classique ici, notre trappeur solitaire, loin de son foyer, se fait conduire manu militari par la garde cruelle de la cité, qui lui bourre la truffe à coups de lance. Et pour cause, notre héros a tenté de s'opposer à la confiscation d'un jouet, triste signe d'une dictature prédatrice au sombre dessein. Hélas, les vives couleurs de Noël, comme les rires des enfants, sont prohibées, confisquées, persécutées et chassées.
Et oui, notre ami n'a d'autre solution que de fuir dans un premier temps, aidé en cela d'une superbe louve blanche, sa louve fidèle, Lily.
À vue de nez, je dirais 300 kilos.
Il faut ça, effectivement, pour se protéger. Soucieux et déterminé de reconquérir la joie et les rires promis aux festivités hivernales, il mènera, seul, une croisade contre le mal en la personne du seigneur du château. Donc le seigneur du château, c'est évidemment un noble cupide, sous l'influence d'un démon dans un sombre marchandage d'enfance. Détruite et malheureuse.
Et est-il de meilleur remède à l'absence de sourire que les jouets magiques fabriqués par des esprits élémentaires de la forêt, répondant à l'appel de notre trappeur au grand cœur? Bravant le couvre-feu, s'infiltrant par les toits, Klaus distribuera jour après jour sans coup férir les jouets pour les enfants par les cheminées. Cet acte de bravoure insufflera vent d'espoir et de courage dans les foyers opprimés, chez les grands et les petits, attisant les braises de la révolte. Les forces de la forêt, à l'appel de Klaus, chassées de la ville, lui ouvrent le chemin du combat pour la liberté en le munissant d'une arme révolutionnaire, les jouets. Des batailles épiques, de la magie, des duels, des monstres et autres abominations humaines, et enfin et surtout un bougre de Père Noël, une clé mort à la main pour lestement leur casser la gueule.
Quant au graphisme, Dan Mora brille par un style que, il faut bien le dire, qui est fin et maîtrisé. Oui, tout à fait, exactement. Un paysage hivernal somptueux, des couleurs somptueuses et des corps expressifs. Alors, je ne peux pas m'empêcher de le dire, dans la pure tradition esthétique néoclassique des comics américains. C'est beau, ça claque, c'est bourrin, on aime bien.
Et c'est la classe, encore.
Oui.
Grant Morrison, ici, maîtrise les codes cinématographiques au service du comics. Son ouverture est celle d'un western à la Sergio Leone, avec Clint Close qui nous rappelle Clint Eastwood. Le récit change alors de ton et de genre pour se tourner vers l'heroic fantasy, avec le recours à la magie et la relation à la nature et des forces surnaturelles. Les scènes de souffrances humaines des villageois asservis à la mine de charbon de la cité nous rappellent Germinal, Zola et autres menus contrariétés industrielles. Les batailles épiques sont dignes d'un bon film d'action, quelque part entre The Witcher, Skyrim et John Wick. Le Père Noël est prêt. Sa liste aussi. Et puisque Noël approche et qu'il est question de liste, n'oubliez pas ce récit singulier du Père Noël le plus badass depuis Saint-Nicolas. Klaus de Grant Morrison et Dan Mora, dans toutes les bonnes librairies.
Sure.